Chapitre 5. Henri s'ennuya pendant toute la route. Il était entre un gros homme en blouse qui ronflait et un Anglais qui voyageait pour son instruction et écrivait sur son album le nom de tous les relais. Ne dormant pas et n'écrivant pas davantage, il se blottit à sa place, se roula sur lui-même comme un limaçon dans sa coquille et se mit à penser. Il se laissait aller au mouvement de la voiture qui se balançait doucement comme un navire, au galop de ses 6 chevaux. Il regardait les arbres qui passaient le long de la portière et les mètres de cailloux couchés au bord du fossé. Pour passer le temps, il regarda aussi la mine avinée du gros homme qui dormait et les favoris rouges de l'Anglais. En revoyant les lieux qu'il avait vus pour la première fois, il y avait 6 mois, il songea à ce temps passé et à tous les événements qui s'étaient écoulés depuis. Cela l'amusa une grande heure. À mesure qu'on s'approchait de Paris, Henri se sentait plus joyeux. Il lui prit une envie inconcevable de recevoir à la maison de M. Renaud. Madame Renaud, de la retrouver comme il l'avait laissée, de reprendre son existence habituelle, de renouer sa vie aux souvenirs qui le charmaient. Il lui semblait qu'il allait trouver quelque chose de nouveau, espoir vague qui lui chatouillait l'âme. Il eut un tressaillement ineffable quand il aperçut les barrières. Il respira plus à l'aise. Il était arrivé. Il allait la voir tout à l'heure dans quelques instants. Étonné de sentir son cœur battre si fort, il se demandait à lui-même d'où lui venait cette joie, et il n'en pouvait trouver la cause. Le gros homme se réveilla et ôta sa casquette de peluche pour mettre son chapeau suspendu au filet. L'Anglais, qui s'était endormi, le bras passé dans une courroie et le crayon à la main, se réveilla aussi, ramassa son crayon et serra son album. Henri avait besoin de courir. Un fiacre n'eût pas été assez vite. Il eût bondi comme une balle élastique. Il se sentait des ressorts d'acier dans les mollets. Il donna ses affaires à un portefeuille et partit. On le rappelait même pour payer sa place. Il s'arrêtait quelquefois, essoufflé, s'appuyant contre un mur pour ne pas tomber. « Mais qu'ai-je donc à aller si vite ?» se disait-il. « Qu'est-ce qui me presse ?» Et il se mettait à marcher plus lentement, mais bientôt il se surprenait à courir. Au bout de chaque rue, il se disait « Oh, je suis un quart d'heure de chemin, je suis au tiers, à la moitié, oh, maintenant presque aux 3/4, encore celle-ci et m'y voilà !» Quand il fut dans la rue qu'elle habitait, il compta les réverbères, et quand il eut passé le dernier, il compta les maisons. « J'en ai encore 3, encore 2... » Il s'arrêta un instant devant la porte et la regarda. Il avança le bras et tira le marteau. Henri à Jules. Hier soir, elle est venue dans ma chambre. Toute la journée, elle m'avait regardé d'une façon étrange et moi-même, je ne pouvais quitter son regard qui m'entourait comme un cercle dans lequel je vivrais. Depuis quelque temps aussi, elle avait changé les places à table et m'avait mis près d'elle. Quelquefois, en causant, elle détourna la tête pour m'adresser un mot à voix basse, et nos deux visages alors étaient face à face, l'un touchant presque l'autre et nos yeux s'unissant. Dans ces moments-là, elle souriait, puis faisait son geste habituel, me regardait en clignant ses beaux yeux et soupirait. À midi, comme je rentrais, elle m'a entendu marcher dans l'escalier. Elle a ouvert sa porte, elle s'est mise sur le seuil et m'a salué en m'invitant à entrer chez elle. Sa chambre était tassée de meubles, de rideaux fermés. Il faisait chaud, on sentait bon. Cela venait des odeurs qu'il y avait sur la table de toilette. Toute sa personne sentait de même. C'était quelque chose de tiède et de frais à la fois, comme une brise d'été. Elle marchait devant moi, j'étais derrière, presque sur ses talons. Je voyais son cou brun, où de petits cheveux noirs se collaient d'eux-mêmes sur la peau, dont chaque pore semblait aspirer mon haleine. Je m'approchais encore, elle s'était arrêtée, j'avançais la tête. Entre son corps et son vêtement, sa chemise bâillait. Je voyais toute la raie de son dos, dont la ligne se perdait vite à la courbure de sa taille. Elle se détourna et se mit à rire. « Mais pourquoi faire cette pâte liquide ?» lui demandai-je. Elle me répondit ben, « C'est pour me frotter les bras. » Et ce grand flacon rouge, c'est de l'eau de rose pour me laver la bouche. Je ne parlais pas, je la regardais, elle aussi. Quoique nous fussions à deux pas l'un de l'autre, nous nous trouvâmes tout à coup rapprochés. Je sentis en effet que sa bouche sentait la rose. Il coulait de ses yeux un fluide lumineux. Ils étaient agrandis, immobiles. Ses épaules nues, car elle était sans fichu et sa robe semblait lâche autour d'elle, étaient d'un vermeil pâle, lisse et solide comme du marbre jauni. Des veines bleues couraient dans sa chair ardente, sa gorge battante s'abaissait et montait, plein d'un souffle étouffé qui m'emplissait la poitrine. Il y avait un siècle que cela durait. Toute la terre avait disparu. Je ne voyais que sa prunelle qui se dilatait de plus en plus. Je n'entendais que sa respiration qui bruissait seule dans le silence complet où nous étions plongés. Je fis un pas, je l'embrassai sur ses yeux qui étaient très tièdes et doux. Elle me regardait tout étonnée. M'aimeras-tu, disait-elle, m'aimeras-tu bien? Je la laissai parler sans lui répondre et je la tenais dans mes bras à sentir son cœur battre. Elle se dégagea de moi. « Non, ce soir, je reviendrai. Laisse-moi, laisse-moi, ce soir. Ah, ce soir. » Elle s'enfuit. Au dîner, elle garda son pied sur le mien et me touchait quelquefois du coude en détournant la tête d'un autre côté. Le soir, enfin, elle vint dans ma chambre comme elle me l'avait promis. Il était nuit, je l'attendais déjà. Elle avait quitté le salon plus tôt que d'ordinaire. Il était à peine 8h30. Elle entra sur la pointe des pieds, doucement, sans bruit. Je la reconnus néanmoins au craquement de ses bottines. C'était elle, un doigt sur la bouche, et dans l'attitude du silence. Elle s'avançait timidement le long de la muraille pour me surprendre. De l'autre main, elle tenait la clé de sa chambre, qu'elle avait prise comme pour y aller. Elle était dans son costume de tous les jours, avec sa robe brune, son tablier de soie, nue-tête, sans gants. J'étais assis, elle me passa la main dans les cheveux, et toute ma chair frissonna sous ses doigts. Je lui pris la taille et je l'attirai vers moi. Ses yeux brillaient comme des flambeaux et me brûlaient à les voir. Mon âme puisait sur ses lèvres toute la vie de la sienne, et nous nous délections, affamés de cet intarissable bonheur. « Oh, mon ange, disait-elle, amour, amour !» Et quelque effort que je fisse peut-être être plus calme, je sentais comme elle un désir de volupté me rouler dans ses flots. Le lit était là, je l'y traînais. Elle criait et repoussait ma tête avec ses bras, puis elle me la prenait à deux mains et me la couvrait de baisers furieux. Je vis son bas blanc saillir après la chaussure noire qui lui serrait la cheville et la forme de sa jambe charnue apparaître ensuite. À l'endroit où la jarretière la serrait, sa chair commença avec toutes les séductions de l'enfer et s'étendit à l'infini comme la tentation elle-même. « Je l'ai eue enfin !» Je l'ai possédée ici, à cette place. Ma chambre, depuis ce moment, est pleine de bonheur. Je retrouve dans l'air quelque chose d'elle. Si je m'assieds sur un meuble, mes membres se posent aux places où elle a posé les siens. Le jour, je marche sur les pavés où elle a marché, et la nuit, je m'étale avec joie sur le lit dont les draps sont tièdes encore, sur cet oreiller qu'elle a parfumé avec ses cheveux. J'avais déchiré sa collerette, elle l'ôta et m'en fit cadeau. Je l'ai là, je la garderai. Puis elle prit mon flambeau et tout en rajustant devant la glace ses bandeaux dérangés et les lissant avec la paume des mains. Mais comment rentrer? On va s'apercevoir. Regarde comme je suis. Mais je ne disais rien, nous étions étourdis l'un et l'autre comme des gens qui se réveillent. Une heure après, elle est encore venue, mais déshabillée, tout en blanc, les bras nus. Oh, elle était plus belle encore. Ce matin encore, elle est venue à peine éveillée, sortant du sommeil et souriait comme un enfant, toute fraîche et câline. Quand elle n'est plus là, j'attends son retour, je rêve à ses derniers mots, aux derniers gestes qu'elle a faits. Et quand elle me quitte, nous nous jurons mille fois de nous revoir tout à l'heure. Elle dit que je ne l'aime pas assez, et elle me remercie pourtant 100 fois par jour de ce que je l'aime, de ce que je lui plais. Elle se laisse aller à mes caresses. Elle se glisse vers moi, comme une couleuvre, et m'enlace de 1000 bras invisibles. Et nous nous promettons de vivre ensemble, de s'adorer, et de n'adorer que nous-mêmes, de mourir le même jour. Je l'entends qui vient, adieu, adieu. Ce n'était pas Madame Renaud, c'était Catherine, sa cuisinière, qui apportait une lettre à M. Henri. Il reconnut le timbre de sa ville et l'écriture de Jules. Il fut fâché d'avoir fermé si vite la sienne, mais comme elle était toute cachetée et que pour l'ouvrir, il eût fallu perdre une page et la recommencer, il la donna de suite pour qu'on la mît à la poste, sans attendre ce que Jules pouvait lui dire. Or, voici ce qu'il y avait dans celle de Jules. Jules à Henri. Tout est fini, ils sont partis. Hier matin, j'allais chez Bernardi. Il est parti cette nuit, m'a-t-on dit. Et Mademoiselle Lussano, partie avec lui. Et Madame Artémise, partie aussi. J'allais au théâtre, le concierge n'était pas là. Il n'y avait personne. Je retournais à l'hôtel et je le demandais encore. « Est-ce vous qu'ils ont chargé de payer leurs dettes ?» me demanda l'hôtelier. « À peine s'ils nous ont payé. Il a bien fallu laisser s'en aller. Pourquoi faire contre ces gens-là » Je montais dans les chambres où ils logeaient, elles étaient vides. Dans celle de Lucinde, il y avait, sur la cheminée, des papillotes de papier brouillard et des épingles noires. C'était tout. On balayait déjà le parquet, les draps étaient ôtés des lits. Enfin, je m'en allais et je descendis dans la rue. Je sortis de la ville, je m'enfuyais je ne sais où. Quelle trahison! Moi, je n'y pouvais pas croire. Mais j'allais les retrouver, les revoir. La revoir au moins, lui dire adieu. Longtemps, j'ai marché sur la grande chaussée qui mène sur la route de Paris. Elle m'a semblé éternelle à parcourir cette longue file de peupliers droits qui frissonnait sous le vent avec un bruit glacial et désespéré. Le monde semblait désert. Je regardais en avant, la poussière seule s'élevait parfois en tourbillon et montait jusqu'au haut des arbres. J'ai rencontré un roulier, je lui ai demandé s'il n'avait pas croisé des voitures depuis 2 ou 3 heures et quelle voiture c'était. Il me dit avoir vu une calèche de louage arriver au premier village que je rencontrais comme il en partait lui-même. Il ajouta que je les rejoindrais peut-être car il fallait que les chevaux se rafraîchissent et la côte qui suivait était rude à monter. Alors j'étais heureux, j'allais les revoir, leur parler, lui parler encore, ne fût-ce qu'un mot, il le fallait. Et au haut d'une colline, je m'arrêtai pour prendre haleine et, dans le fond de l'horizon, j'aperçus des toits en tuiles. C'était là le village où ils étaient, leur voiture y était. Elle y était, il me semblait la voir au loin. Je courus de toute ma force. J'y arrivais. Oh, je ne me rappelle plus rien. Il y avait seulement, sur un vieux pont, un moulin qui m'éclaboussa en passant. Après le pont, la côte commençait. La rage me redonna des forces et je voulus la monter, mais N'en pouvant plus, je tombai à un détour sur le bord de la route, la mort dans l'âme, râlant, brisé. Je relevai la tête. Au loin, au milieu de la ligne blanche de la grande route, se traînait un large point noir qui diminuait de grandeur en s'éloignant de moi. Tout était silencieux. Seulement j'entendais un bruit sourd qui arrivait jusqu'à moi. De temps à autre, le point noir s'arrêtait et puis repartait. En ce moment, le soleil perça les nuages et éclaira en plein le sommet de la montagne qui semblait toucher au ciel, et je vis sortir d'un des côtés de la route deux formes, l'une près de l'autre. Le soleil brilla encore plus, si bien que le sol parut s'éclairer de lui-même comme un verre de couleur qu'on allume en dedans, et je distinguai le conducteur de la voiture et ses deux chevaux qui soufflaient haut de la montée. Il y avait sur la gauche un petit taillis d'où étaient sorties ces deux formes vagues qui touchaient en ce moment au marchepied de la calèche. Je crus voir du bleu et quelque chose de flottant comme une robe. Et puis tous les objets grandirent et je les vis nettement. Bernardine allait le bras à Lucinde. Il s'approcha d'elle et l'embrassa. Je crois qu'il riait et qu'il parlait de moi. Et un roulement plus vif recommença. Je me couchai l'oreille contre terre pour l'entendre plus longtemps. Je suis redescendu dans la vallée. J'ai repassé lentement dans ce village que j'avais traversé en courant. Je me suis accoudé sur le parapet du pont pour voir l'eau bouillonner sous l'arche et emporter les brins d'herbe qu'elle arrachait sur les bords. La mousse montait le long du mur et courait vers moi comme pour me prendre. Le torrent parlait et m'appelait à la vie. Oh, que n'étais-je une de ces gouttes d'eau qui se roulaient avec furie et qui s'anéantissaient aussitôt dans la vapeur de leur colère.
La charité, la charité,
murmura à mes oreilles une petite fille en guenille qui marchait pieds nus dans la poussière et me tendait la main avec un visage souriant. Va-t'en, va-t'en, lui criai-je de toute ma force, car l'envie m'avait pris de suite de la perdre avec moi dans un vertige, d'entendre ses cris de détresse, de la voir se déchirer avec les flots contre les murs glissants où ruisselait la rivière. Je m'enfuis comme si je l'avais tuée. Tout le jour, j'errai au hasard dans la campagne, triste et vagabond comme les loups. J'allais, foulant les blés, arrachant les feuilles, me déchirant aux ronces des bois, aux cailloux des plus précrentiers, et jouissant de voir mes mains ensanglantées, de sentir mes pieds meurtris, pleurant et criant dans l'air, cherchant une proie, voulant mourir. Je suis resté dans un champ de colza, couché à plat ventre, le visage dans mes mains, à penser à mon malheur, à pleurer tout à mon aise, et rêvant longuement à mon suicide. Puis je me suis relevé, j'ai été encore me traîner ailleurs. Le jour était sans doute tombé, je n'y voyais plus, et tout le paysage flottait dans un brouillard ténébreux. Mes tempes bourdonnaient, je ne savais où aller. La misère me tenait, j'avais froid, j'avais faim, je grelottais. Oh, j'avais peur de tout. À côté de moi, dans un chemin creux, passa un charretier assis sur un cheval de labour, marchant au pas, les traits passés dans son collier. L'homme se laissait dandiner sur le dos de sa bête et sifflait un air campagnard. Je le suivis pour suivre quelqu'un. Il s'arrêta à une barrière et j'entrai avec lui. Je demandai à me reposer dans la ferme et à prendre un peu de lait et de pain. Après quoi je m'en irai. Je suis resté tout seul, assis sur un banc dans la cuisine, pendant que la fermière était allée dans la laiterie. Le balancier de la grande horloge battait régulièrement. Les mouches bourdonnaient contre les carreaux et sur la table où elles cherchaient des miettes de pain. Dans la cour, les vaches broutaient l'herbe ou ruminaient couchées à l'ombre, assises sur leurs flancs puissants. Les poules gloussaient, se cachant la tête sous l'aile. Sur le fumier, un coq chantait. et j'enviais les jours pacifiques de ceux qui se réveillent à l'aube et se couchent à l'Angélus, qui passent leur vie courbés sur leur charrue, marchant eux-mêmes dans le sillon qu'ils ont fait, puis entassent en chantant les foins qu'ils ont fanés, ne redoutant que les orages qui perdent les moissons. Merci de ton sachet, Henri, merci. Oh, il est arrivé trop tard. Je n'ai pu le donner à celle pour qui je voulais, mais je le garderai pour moi. Ce sera bon souvenir à moi, la relique de mon amour trompé, la seule ruine de cette espérance abattue. À moins que les choses inanimées n'aient aussi leur ironie. Ah, quel mensonge que la vie! Quelle amertume, rien que d'y songer! Quand vous voyez des feuilles, elles se fanent à l'instant. Touchez un fruit et il se gâte. Poursuivez quelque chose, elle se change en une ombre et en fantôme. Lui-même vous échappe, vous laissant moins que rien le souvenir d'une illusion, le regret d'un rêve. Tout m'a manqué. Cette femme s'est jouée de moi. Une autre avant elle avait fait de même. Te souviens-tu aussi de Madame Herminie, cette lingère chez laquelle, au collège, vous alliez tous et qui se cachait toujours quand je passais devant sa boutique? Je suis maudit. Pouf, tout m'a manqué, l'art et l'amour, la femme et la poésie. Car, j'ai relu mon drame et j'ai eu pitié de l'homme qui l'avait fait. C'est faux et niais, nul et emphatique. Qu'importe l'art, après tout, c'est un mot vide de sens dans lequel nous plaçons tout notre orgueil et qui nous crève dans les mains dès qu'on le pressure. Je n'ai plus ni espérance, ni projet, ni force, ni volonté. Je vais et je vis comme une roue qu'on a poussée et qui roulera jusqu'à ce qu'elle tombe, comme une feuille qui vole au vent tant que l'air la soutient, comme la pierre jetée qui descend jusqu'à ce qu'elle trouve le fond, machine humaine qui verse des larmes et secrète des douleurs, chose inerte qui se trouve là sans cause, créée par une force incompréhensible et qui ne comprend rien à elle-même. La vie est bonne pour ceux qui ont une passion à satisfaire, un but à atteindre, mais moi, quelle passion veux-tu que j'aie? Donne-moi une. Quel but puis-je viser? Montre-moi un. Tout cela est une absurdité horrible, une furie insipide, mêlée d'angoisse. Je le garderai, le sachet que tu m'as donné. Si je meurs, tu diras commentaire avec lui. Qu'on me l'attache sur la poitrine avec ses longs rubans qui devaient être noués et dénoués chaque jour par des mains plus joyeuses. Je veux que ce satin parfumé me préserve le cœur du contact du linceul. Cela me tiendra chaud dans mon sommeil. Madame Renaud entra, Henri la fit asseoir sur ses genoux, et ils passèrent une heure à se dire qu'ils s'aimaient et qu'ils étaient heureux. Puisqu'il se croyait heureux, il l'était en effet, le bonheur ne dépendant que de l'idée qu'on s'en forme. Celui qui le place dans une belle paire de bottes doit être ravi quand ses moyens lui permettent d'en acheter une à l'écuyère, et le pêcheur à la ligne remercie le ciel sans doute lorsque, guettant son brochet, il attrape une truite. J'ai connu un pauvre diable qui vivait d'aumône au bord d'un grand chemin. Il couchait dans une hutte en terre qu'il s'était faite avec ses mains, en ramassant de la boue quand il avait plu. Un bonnetier retiré, qui avait acheté un château dans les environs, lui donna 50 francs par an pour garder ses cochons et vider leur étable où il couchait avec eux, pour les soigner quand ils étaient malades. J'entrai un jour là-dedans, à peine si on pouvait y respirer. « Eh bien, monsieur, me dit-il en me montrant la botte de paille qui composait son lit, je suis heureux maintenant, j'ai un bel appartement. » Tandis que le palefrenier eût été indigné de coucher dans la porcherie et enchanté de dormir à l'office, ce qui eût révolté le valet de chambre. Le bonheur est de même, cage plus ou moins large pour des bêtes petites ou grandes. Le Milan est tout frais dans celle où le serin vole à l'aise, et d'autres où l'on enferme des vautours ferait mourir les lions. Mais, que les barreaux soient resserrés ou élargis, il arrive un jour où l'on se trouve tout haletant sur le bord, regardant le ciel et rêvant l'espace sans limite. Henri et sa maîtresse vivaient en plein amour. Les premiers jours, et dans l'enivrement d'eux-mêmes, à peine s'ils pouvaient y croire, ils se regardaient, avides et stupéfaits, craignant de s'échapper l'un à l'autre et voulant que cela durât toujours. Chaque heure apportait son plaisir différent. Ils n'étaient pas heureux le matin comme ils l'étaient le soir, ni la nuit de la même manière que le jour. Les choses les plus communes ou les plus indifférentes avaient pour eux une signification particulière. Ainsi, elle lui promettait qu'à telle heure, elle remuerait un meuble, ce serait un signal, elle penserait à lui, et l'heure approchant, Henri attendait. Il lui promettait à son tour qu'il marcherait en frappant des pieds, et elle l'écoutait marcher en tenant le cœur avec ses deux mains. Henri descendait au jardin pour lire, et il trouvait Madame Renaud qui y était venue par hasard. Ou bien Madame Renaud prenait son ouvrage pour aller coudre sous la tonnelle, et Henri, tout à coup, sortant de derrière un arbre, la faisait tressaillir. Ces petits événements étaient pour eux de grandes aventures. Pour elle, Henri était toujours fort et beau, elle admirait l'air superbe de sa tête. Pour lui, elle était toujours exquise et belle, il adorait le feu humide de son doux regard. C'était un inépuisable besoin d'eux-mêmes, qui se renouvelait en s'assouvissant, qui renaissait sans cesse, qui n'avait ni fin ni trêve, qui augmentait toujours. Elle lui prodiguait chaque jour 1000 trésors d'amour toujours nouveaux. Tantôt, c'était d'adorables langueurs, où tout son cœur se fendait, ou bien d'âcres déchirements, pleins d'une douleur joyeuse qui tourne au délire. Quelquefois, elle avait des morsures chaudes, où les mailles de ses dents blanches, s'appuyant sur la chair de son amant, claquaient avec la férocité de la Vénus antique, tandis que sa main, onctueuse et toujours caressante, lui semait sous la peau d'ardents effluves à réveiller les morts, d'irrésistibles désirs, où l'on vendrait son père pour sentir une seconde le contact d'un ongle. La nuit, étouffant leur cri de peur d'être entendue, et elle-même se fermant la bouche avec son bras, se tordait en convulsions, éclatait tout à coup en rire et en sanglots, et le couvrait de baisers voraces. Puis, calme tout à coup et l'appelant par des mots égarés, relevant sa tête en sueur, elle le contemplait avec ses yeux fixes, enflammés comme des flambeaux. Une autre fois, c'était en rentrant de quelque visite, encore tout habillé, avec son grand chapeau à plumes blanches qui se remuait toujours, ses gants justes qui lui serraient le poignet, sa chaussure mince et vernie, sa robe qui balayait le sol et soulevait un air tiède autour d'elle, elle lui livrait tout cela, à froisser dans ses bras, à tasser, à déchirer pour son plaisir. Elle se couvait exprès pour qu'il lui ôtât son peigne et lui défit ses bandeaux. Elle s'habillait longuement, choisissait ses plus fines broderies, sa robe la plus neuve, afin que, dans un emportement, dans un éclat, Henri arrachât ce fichu, cassât ce nœud avec ses dents et foulât toute cette toilette édifiée pour lui, sacrifiée par avance, qu'elle se procurait l'occasion de faire pour en sentir plus tard tout le plaisir. Dans l'escalier, en montant les derniers, ils se pressaient les mains. Entre deux portes, ils s'embrassaient. À table, leurs genoux se touchaient. Quand il y avait du monde dans le salon, quand Madame Renaud, décolletée et légèrement vêtue, allait de l'un à l'autre, maîtresse de maison entourée des hommages des vieux et de la convoitise muette des jeunes, combien le cœur d'Henri souriait d'orgueil en pensant que cette épaule couverte se découvrait pour lui, que ses seins cachés, dont on rêvait la forme à travers le vêtement, se donnaient à ses lèvres, que ses yeux placides ou baissés s'allumait pour lui d'un feu inconnu à tous ces gens, et que maintenant, à la face de tous, devant eux, malgré eux, il s'unissait encore par le souvenir et par le désir. Et quand la nuit revenait, quand, à l'heure habituelle du rendez-vous, ils se retrouvaient à eux-mêmes, seuls et jouissaient de leur joie cachée comme des voleurs qui contemplent leur trésor, Henri lui disait « Oh, comme tu étais fier tantôt, à peine si tu me regardais !»« N'est-ce pas ?» lui répondait-elle avec un baiser. « Hein ?» qui lui dit. « Qui s'en doute ?» C'est ainsi que toutes les variétés de plaisir et de vanité se fondaient dans cet ensemble complet qu'on appelle l'amour, de même qu'on appelle lumière tout ce qui brille à nos yeux, depuis les filets blancs qui passent à travers les murs des prisons, jusqu'à la nappe d'or éthéré que le soleil des tropiques étend sur mes têtes. Quoique vivant dans la même maison et participant à tous les détails d'une existence commune, ce n'était pas assez pour eux. Ils eussent voulu vivre exclusivement ensemble et débarrasser de tout témoin, même un inintelligent, dans quelque désert peut-être, comme deux Robinson, se suffisant à eux-mêmes. Alors même qu'ils sont ivres, les ivrognes demandent à boire, et les amants encore à s'aimer. Henri se reprochait de ne pas sentir les exagérations magnifiques qu'il avait lues dans les livres, et chaque jour, cependant, il lui arrivait au cœur d'inexprimables sensations qu'il n'avait jamais rêvées, des tressaillements inattendus qui le surprenaient lui-même. Arrivé à ce point, il se crut au bout de l'amour. Ne lui avait-elle pas fait parcourir un à un tous les pas de ce sentier magique qui mène à des sommets d'où l'on contemple la vie d'un regard si ébloui? N'avait-il pas eu l'étonnement, le pressentiment, l'espérance? Essuyer tour à tour le doute, le désespoir, pour en revenir au désir et finir par le triomphe et l'allégresse, et maintenant enfin par une béatitude amoureuse qui lui semblait devoir être l'état normal de son âme. Il se donnait des rendez-vous dans Paris, au coin d'une rue, sur une place. C'était à qui il serait le premier arrivé. Il souriait de loin en se voyant s'avancer l'un vers l'autre. Ils se prenaient de suite par le bras et marchaient ensemble comme mari et femme, comme amant et maîtresse. Henri, fier d'avoir à son côté une si belle dame, et Madame Renaud, fière d'avoir aussi un si beau cavalier, et observant avec soin toutes les femmes qui le regardaient en pensant. Ils se parlaient d'eux-mêmes et de leur amour, car c'était pour être plus seul et plus à l'aise qu'ils se promenaient dans la foule. À les voir ainsi marcher vite sur le trottoir, on eût dit qu'ils étaient pressés par quelque affaire et qu'ils couraient à un but comme les autres. Il y avait des jours où, vaguement tourmentés dans leur bonheur et plus tristes qu'à l'ordinaire, ils se parlaient moins et s'aimaient encore plus. Ils montaient dans un fiacre, s'asseyaient en face l'un de l'autre, et la main dans la main se laissaient aller silencieusement au balancement de la vieille boîte peinte qui les promenait partout le long des boulevards. Henri pensait aux couples heureux qui voyagent ensemble sur quelque grande route de Suisse ou d'Italie, couchés au fond de leur berline, après un long jour d'été, vers le soir, quand on relève les stores de soie bleue pour admirer les larges ondulations des montagnes et tous les caprices du paysage. Alors Madame Renaud souriait malgré elle et le traitait d'enfant. Une fois, oh, cela n'arriva qu'une fois, Henri, prétextant des affaires de famille, sortit le matin en avertissant qu'il ne rentrerait que fort tard dans la soirée. Et Madame Renaud fit de même en disant qu'elle avait beaucoup de courses à faire et qu'elle dînerait ensuite chez Mademoiselle Aglaé et ne rentrerait chez elle qu'après l'heure des spectacles. À 100 pas de la grande porte de Monsieur Renaud, ils se rejoignirent et parurent ensemble à Saint-Germain pour y passer la journée. Quand ils sentirent la file des wagons s'élancer sur les rails, un espoir immense s'empara d'eux. Il leur sembla qu'ils s'en allaient pour toujours, laissant là leur passé, et commençant une vie nouvelle où l'avenir ne dépendrait que d'eux-mêmes et se soumettrait à leur amour. En passant sous les tunnels, ils se serraient fortement les mains, mais quand on retrouvait le jour, ils prenaient promptement une tenue convenable à cause du public qui était là. Pendant 12 heures, depuis 11 heures du matin jusqu'à 11 heures du soir, ils vécurent ensemble, isolés dans leur égoïsme, comme s'ils eussent été les deux seuls êtres de la création. Ils mangèrent seuls, s'assirent seuls sur l'herbe, se promenèrent seuls dans les champs, et repartirent à la nuit plus heureux que des rois. Ce sont de ces souvenirs-là, quand on en a de pareils, qui réchauffent les os des septuagénaires et leur font regretter la vie. Ils s'étaient d'abord donné de leurs cheveux, avec promesse de les porter toujours. Puis on échangea des bagues, puis on se fit faire son portrait à la miniature, et on l'encadra au fond d'une petite boîte bien rembourrée, qui s'ouvrait 100 fois par jour. Henri était peint en robe de chambre, nu cou, l'oreille vers l'horizon, les cheveux au vent. Madame Renaud était de face et souriait. Elle avait cette robe jaune qui la rendait si belle le soir surtout, et qu'Henri aimait tant. Il fallait néanmoins que le père Renaud fût né et destiné à être époux, pour ne s'apercevoir de rien. On eût dit même que la négligence des deux amants voulait provoquer quelques-unes de ces collisions domestiques qui colorent la vie bourgeoise et lui donnent les proportions de l'art. 1000 fois dans le jour, Madame Renaud entrait dans la chambre d'Henri, Henri dans celle de Madame Renaud. Ils se parlaient à mi-voix quand ils se rencontraient quelque part, sortaient peu de temps l'un après l'autre et rentraient presque à la même heure. Ils avouaient même, devant tout le monde, une sorte d'intimité intellectuelle qui faisait, disait-il, qu'ils se plaisaient beaucoup à être ensemble. Madame Renaud surtout n'y mettait pas toute la retenue habituelle à son sexe. Elle parla un jour avec Henri qu'elle boirait dans son verre pendant tout un dîner, ce qu'elle exécuta à la barbe de son mari, qui ne s'aperçut de rien du tout, tout occupé qu'il était à raconter une histoire facétieuse. Elle s'amusait beaucoup à ces sortes d'outrages déguisés. Ainsi parlait-on de deux choses, peu importe pourvu qu'on pût établir entre elles une comparaison ou un rapprochement quelconque. Elle prenait de suite la parole et paraphrasait le sujet de la conversation d'une manière un peu obscure pour les autres. Il est vrai, mais fort clair pour Henri, si louangeuse pour lui, si dégradante pour M. Renaud, que notre héros lui-même en était quelquefois tout scandalisé et tout émerveillé. Comme il eût été mal reçu et durement mené, ce pauvre mari, si ce fût avisé seulement d'observer tout haut que la lumière de la chambre d'Henri s'éteignait le soir de bien meilleure heure que par le passé, tandis que celle de Madame Renaud restait allumée fort tard, ou encore s'il eût dit que la nuit les portes criaient depuis quelque temps avec un miaulement affreux. Mais il s'endormait trop tôt et ronflait trop fort pour y prendre garde. Peste, oh, il aurait pas fait bon. Dans les premiers temps de leur ménage, à l'occasion d'une femme de chambre à laquelle il avait donné un foulard le jour de sa fête, elle lui avait fait des scènes épouvantables à ruiner son pensionnat si jamais elle se renouvelait. Puis à vrai dire, oh, il ne pensait guère à la vertu de sa femme, à ce qu'elle en eût ou n'en eût pas. Pourvu qu'elle tînt bien son ménage et flatta les parents de ses élèves par ses cajoleries maternelles, pourvu qu'on lui donnât tous les matins ses chaussons de Strasbourg et le soir avant de se coucher son invariable tasse de tisane, pourvu qu'on fût content de l'assaisonnement qu'il faisait à la salade et des calembours qu'il débitait au dessert, il n'en demandait pas plus. D'ailleurs, il gagnait de l'argent et était disposé à voir les choses de ce monde sous un jour favorable. Il méditait en ce moment un nouveau manuel du baccalauréat ès-lettres qui devait donner un grand renom à son établissement, auquel il se proposait d'adjoindre l'année suivante un athénée littéraire pour les jeunes personnes. Madame Renaud semblait reprise pour lui d'un amour tout nouveau. Le soir, avant de se séparer, elle lui présentait son front à baiser, et après le déjeuner, elle l'entraînait au jardin, comme autrefois, pour causer tranquillement, tout en coupant avec ses ciseaux le bout des églantiers. Henri, qui le regardait de promener de la fenêtre, cherchant vainement à deviner ce qu'il pouvait se dire, sentait malgré lui d'étranges mouvements de jalousie agiter son cœur, mais qu'ils étaient vite apaisés par le regard ironique et tendre de celle qui les avait causés. Plus vite, ma foi, que les flots calmés par le fameux Quos ego de Neptune, tant admiré de mon professeur de rhétorique. Il voulut savoir seulement pourquoi elle feignait tant de l'aimer, et si parfois, ne fût-ce qu'une minute, elle ne disait pas vrai. Car il était bon, ce pauvre monsieur Renaud, et on pouvait l'aimer. Henri l'aimait bien, lui, et il avait presque des remords de le tromper si bassement. « Mais peux-tu le croire ?» lui répondait-elle avec colère. « Oh, qui sait ?» disait Henri. « Oh, mais quelle pensée, quelle horrible pensée tu as là, moi l'aimer !» Et elle se mettait à pleurer, et il fallait la consoler. Elle faisait la jalouse et tracassait son époux légitime à cause de Madame Lenoir, pour laquelle elle l'accusait de mourir depuis longtemps une passion véritable. Si Monsieur Renaud lui avait adressé la plus simple galanterie ou le moindre petit mot pour rire, c'était des mines longues pour toute la semaine, accompagnées d'un silence digne, entrecoupé de soupirs expressifs. Henri lui-même s'y laissait prendre. « Mais est-ce que tu es réellement jalouse ?» lui demandait-il. « Moi, jalouse d'elle, de cette dordon-là. Mais quand elle serait belle après tout, qu'est-ce que cela me fait? Est-ce que je l'aime ?»« Bien sûr ?» demandait encore Henri. « Mais peux-tu en douter ?» disait-elle. Et elle lui entourait le cou de ses deux bras et le baisait sur les paupières. C'était un soir d'été. Madame Renaud, qui avait été assez triste toute la journée, nonchalante alors et étendue silencieusement dans le fauteuil de son mari, semblait absorbée dans ses pensées. Le père Renaud, qui au contraire avait été assez joyeux pendant tout le dîner, la face épanouie et les joues rouges, était assis sur le bord de la fenêtre et humait l'air pour hâter la digestion. Henri, en face de lui, regardait Madame Renaud du coin de l'œil. On ne disait rien. Le temps était beau et le soleil se couchait dans les tours de Saint-Sulpice. Enfin, le père Renaud se leva et prit son chapeau. « Vous sortez ?» dit Madame Renaud. « Oui, ma bonne. »« Ah, vous sortez ?» reprit Madame Renaud lentement. « Très bien. Et où allez-vous ?»« Où je vais ?» répéta le mari étonné. « Oui, où allez-vous ? Voyons, cherchez un peu une excuse. Faire votre tour, sans doute. Un tour qui durera 3 heures, le temps d'aller rue Saint-Honoré, d'y rester et d'en revenir. » La rue Saint-Honoré était celle où demeurait Madame Lenoir. « Voyons, répondez, ne vous cachez pas. Est-ce là que vous allez ? Mais songes-tu à ce que tu dis ? « Oh, fort bien, autant que vous à ce que vous faites. Mais dépêchez-vous donc, on vous attend. Ben, »« Cela est vrai, il est grandement temps, » reprit naïvement le père Renaud. « Peut-être même. »« Voilà qui est violent !» s'exclama Madame Renaud, rouge de colère. « Me l'avouer à la face, me le dire tout haut. Vous l'avez entendu, monsieur Henri, il va chez elle, il ne s'en cache pas, il le dit, il s'en vante. »
« Chez qui ?» demanda le père Renaud.
« Ah, il ne vous manque plus que de me forcer à dire son nom.
Mais quel nom ?»«
Mais quel nom ?» répéta Madame Renaud. « Mais son nom, ce que vous aimez ?»
Et elle se cacha la tête sur le fauteuil, en se tournant tout le corps comme quelqu'un qui a des convulsions. Mais ma bonne amie, on ne jurait pas. Mais que le diable m'emporte si... Oui, vous mentez, mentez, et ajoutez l'hypocrisie, et vous ajoutez l'hypocrisie à l'impudence. Oh, accumulez outrage sur outrage, ne vous gênez pas, monsieur, je vous connais, rien ne m'étonnera. Je suis résigné à tout. J'accomplirai mon devoir jusqu'au bout, je boirai le calice jusqu'à la lie, jusqu'à la mort.
Mais en vérité, mais je ne te conçois pas, mais qu'est-ce qu'il y a?
Vous patientez, ce ne sera pas long. Vous serez bientôt libre. Bientôt la pauvre femme ne sera plus, et alors, débarrassez de toute entrave vos passions.
Mais devant du monde, mais tais-toi donc, Émilie. Monsieur Henri est là, tu es folle.
Folle, reprit-elle de suite en le fixant d'une manière terrible, oui, folle de douleur, et c'est vous qui en êtes cause.
Henri l'admira, elle avait une expression égarée qui la rendait superbe. Elle continuait,
« Me taire, dites-vous, m'exhortez donc, les supplices à rire. J'ai tout supporté, froideur, dégoût, abandon, isolement, outrage, jalousie, et plus encore, et plus encore. »
Elle sanglotait, le visage caché dans son mouchoir. « Mais au nom du ciel, que t'ai-je fait ?»«
Oh, il le demande, il le demande. »«
Oui, je le demande, » répétait le père Renaud impatienté. « Dis-je. »«
Oh, soyez mieux élevé, » reprit madame Renaud avec hauteur. « Vous rudoyez une femme qui pleure, une femme qui se plaint, une pauvre femme qui souffre, car son cœur brisé se déchire. »
Elle s'attendrit de nouveau et se remit à pleurer.
Ah, nous ne sommes pas aussi fortes que vous, nous autres femmes. Vous, quand un malheur fond sur vos têtes, quand une croyance s'en va, quand un amour vous quitte, vous avez le sien, l'ambition, le jeu, l'argent, la gloire, les orgies, le café, la chasse, les chevaux, le billard, que sais-je, moi. Votre cœur de granit ne s'écorche à rien. Il se console de tout. Il s'enorgueillit même de ses ruines. Qu'est-ce que cela vous fait à vous autres que l'ange que vous avez souillé remonte au ciel puisque vous n'y croyez pas? Avez-vous aussi des nuits de désespoir, de longues nuits passées à gémir sur une couche brûlante, altérées de cet amour divin que vous nous refusez toujours car vous ne l'avez jamais? Pour vous, il n'y a pas d'âme, vous êtes des athées. Le corps est tout, et quand vos sales désirs sont assouvis, malheur à nous, nous ne servons plus que de piédestaux à votre exécrable vanité ou d'ornement à vos maisons.
Eh bien, dit le père Renaud, je ne sortirai pas. Et il défit son chapeau. Il y eut un long silence.
« Mais pourquoi ne sortez-vous pas? Allez vous promener où bon vous semblera, mon ami, je n'y tiens pas. »«
Non, je reste, » dit le père Renaud, « je reste. » Et il s'assit sur une chaise.
« Mais il faut aller où vous aviez affaire, » reprit madame Renaud.
« Non, non, j'irai demain. »«
Si c'est à moi d'obéir, sortez. »«
Non, non, parbleu, ce n'est pas si pressé. »«
Ou que ce ne soit pas ce que j'ai dit qui vous en empêche. »
Non, du moment que je ne le voulais pas.
Mais qu'est-ce que cela fait?
Elle se leva, vint à lui, et le prenant par le bouton de son habit et jouant avec sans le regarder.
Bon, non, j'ai eu tort, dit-elle. J'ai été injuste. Faut pas m'écouter, voyez-vous, je suis trop vive, je m'emporte, je m'égare. Je vous ai peut-être blessé sans le vouloir, pardonnez-moi. N'y pensons plus, hein? Je suis une enfant, voyez-vous. Ma mère m'a tant gâté, vous le savez. Elle ne s'entendait pas, comme vous, à crever les hommes. Une autre fois, je serai plus sage, vous verrez. C'est que je vous aime tant. Il ne faut pas vous étonner si je suis jalouse. Mais j'ai tort. Car tu adores toujours ton Émilie, n'est-ce pas? Tu serais désolée de la fâcher, chère amie.
Elle lui flattait le visage avec ses mains. Le père Renaud ouvrait de grands yeux sous ses lunettes. Allez, oui, tu es bon, pauvre père. Allez, voyons, embrasse-moi vite. Embrasse-moi vite, un baiser là. Là, pauvre bon.
Eh oui, ma bonne.
Là, voyons, encore un.
Oui, encore, ma poule.
Là, là, cher ami. Oui, là, là.
Ils se caressaient tendrement avec cette espèce de grognement sentimental qui est de rigueur dans ces cas-là.
Pour me prouver que vous ne m'en voulez pas, il faut faire comme si je n'avais rien dit.
Non, pas.
Si fait. Autrement, je croirais que tu me gardes rancune.
Non, je veux céder à mon tour, je resterai.
C'est à toi de commander, je veux que tu sortes.
C'est pas pressé.
N'importe.
Oh, je t'en prie.
Non, pour te faire plaisir.
Pour te faire plaisir, je reste, je reste.
Mais c'est moi qui dois te faire plaisir, va-t'en, va-t'en.
Non, 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 je ne bouge pas.
Alors, tiens, voilà ton chapeau.
Mais pourquoi tant te contraindre et m'engager à te quitter?
Allez, ne m'écoute pas, va, prends ta canne.
Non.
Si, prends donc.
Et la querelle allait peut-être recommencer quand Catherine entra.
Oh, monsieur Manet, je vous prie, monsieur, de pas oublier d'aller chercher le médecin. Il souffre beaucoup, le pauvre homme est pâle comme le drap de son lit. Quelquefois, il grince des dents. Alors, monsieur Alvarez lui dit quelques mots, et monsieur Manet, aussitôt, lui répond avec l'air en colère, en répétant « La puta, la puta !»«
Oh, la puta !» fit le père Renaud étonné. « La puta, il a le délire sans doute. »
« Je vais lui répondre que monsieur y va ?»
demanda Catherine. « Diable !» se disait-il en lui-même, « un malade chez moi, un malade grave. Il n'a qu'à communiquer ça aux autres, je suis perdu. Lui qui appartient à une famille principale de Lisbonne, s'il meurt, c'est fini, j'aurai plus de portugais. Et ma caisse d'orange au jour de l'an, qu'est-ce qu'il me l'enverra ?»«
Eh bien, » dit madame Renaud, « il faut sortir. »
Mais, reprit le père Renaud encore ému, mais faut-il...
Allez-y, monsieur, allez-y, répétait Catherine.
Oui, j'y vais, dit-il tout à coup. J'y cours, mais je ne serai pas longtemps. Resté seul avec madame Renaud, qui avait repris dans son fauteuil son attitude rêveuse, Henri admirait encore les éclats de la passion fausse qu'il avait vue tout à l'heure, elle les comparait à d'autres qu'elle lui montrait tous les jours. Il comparait ses bouderies et ses emportements récents et son retour subit de douceur caressante aux colères amoureuses, aux enfantillages divins dont elle l'ensorcelait chaque jour. Et ce rapprochement involontaire le rendait tout pensif. Il se joignait aussi dans son esprit le dégoût de la trahison inutile où cette femme se délectait à plaisir. Il tressaillit tout à coup, c'était elle qui s'était levée et qui était là devant lui, sous ses yeux. Elle le regardait en souriant et semblait lui dire «
Tout cela pour toi !»
Et ce regard lui alla au fond de l'âme, y frappait la corde sonore de l'orgueil. Il se mit aussi à sourire et lui tendit les bras avec une cupidité effrénée. Il la serra contre lui et imprima un long baiser sur le front net et blanc, si candide pour lui et si perfide pour les autres.
« parle bas, » disait-elle en se mordant les lèvres, « il n'aurait qu'à revenir. »«
Oh, comme tu le trompes !» reprenait Henri.
« Oui, oui, » murmurait-elle en l'étreignant sur sa poitrine oppressée, « oui, oui, toujours, pour toi, pour toi !»
« M'aimes-tu ? » disait Henri. Et la figure égarée, elle répondait, «
Mais je le hais, je le hais !»
La porte de l'antichambre était ouverte. La maison était pleine de monde. Quelqu'un pouvait entrer. On marchait dans l'escalier, du jardin peut-être, on les entendait. Il tremblait d'angoisse. Et cette angoisse était une volupté de plus par-dessus l'autre. Il goûtait toutes les joies de l'adultère dans son bonheur muet, dans son ivresse contenue.
C'est là que les ténèbres sont douces, que le mensonge tourne à l'enthousiasme, que le sacrilège exhale son parfum d'enfer et excite au délire. L'amour fatal qui vient de former ses liens est si fier d'en briser d'autres qu'il se complaît avec une férocité obscène à les fouler sous ses pieds. Cependant, Mendès, couché dans son lit et suant sous ses couvertures, attendait l'arrivée du docteur. Alvarez, assis à ses pieds et un oreiller sous les reins, n'avait guère meilleure mine. « Si j'avais pourtant obtenu, disait le premier, au lieu de... » « J'en désespère, disait le second aussi. « Enfin, tant pis, soupirait Mendès résigné. « Mais non, 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 jusqu'à en mourir, répétait tout bas Alvarez. » Et enfin, le beau docteur du Laurier arriva. Vous savez, cette célébrité scientifique qui a commencé par les femmes entretenues, s'est poussée par les dévotes et qui, depuis, est devenue presque une illustration financière à force de travail et de talent. Mais alors, il n'était pas riche et se dérangeait de suite quand on l'appelait. Il vit du premier coup d'œil ce qu'avait notre ami Mendès. « Oh !» fit-il en l'examinant. « Il y a complication. Ceci demande à être soigné. » Et il se mit à lui écrire une ordonnance. Les peines de cœur seules n'avaient pas réduit Mendès à cet état. Longtemps, il avait pensé à Madame Dubois. Pendant plus de 6 mois, il en avait rêvé toutes les nuits et parlé tous les jours. Il avait bien copié pour elle la valeur de 4 volumes. Il avait acheté pour lui plaire je ne sais combien de cravates de fantaisie et de gilets à palme d'or. Tous les 15 jours à peu près, le lendemain des jours où elle venait chez Madame Renaud, il jurait de lui envoyer tout, de dire « Je t'adore » et de tomber à ses pieds. Puis, le terme échu, il s'ajournait encore, avec une résolution nouvelle, qui s'évanouissait comme les autres, en présence de la gorge fournie de cette bonne Madame Dubois. Son tempérament portugais, irrité par un désir continuel, était sur le point de le faire éclater comme une chaudière à vapeur, quand un soir, un bienheureux soir, il s'esquiva de chez M. Renaud, descendit le faubourg Saint-Germain, traversa les ponts et alla promener du côté de la rue du Helder, de la rue de la Michaudière et de la rue Grange-Batelière. Il entra à minuit enthousiasmé dans la chambre d'Alvarez. Le lendemain, il sortit et rentra toujours content. Le surlendemain, il sortit encore et rentra également satisfait. Un jour cependant, il sortit de même et rentra très peu enchanté. Voilà pourquoi le docteur du Laurier écrivait en ce moment une si longue ordonnance et pourquoi, pendant 3 semaines, son petit coupé jaune s'arrêta chaque matin devant la grande porte de M. Renaud. Les pilules succédaient aux potions et les pastilles aux tisanes. Mendès rétablissait petit à petit. Et il se promenait déjà, promettait déjà d'aller s'essayer ses forces au Ranelagh pour y faire quelque agréable connaissance qui pût effacer complètement le souvenir de Madame Dubois et qui lui offrit néanmoins toutes les chances de bonheur possibles. Il voulait une petite grisette, bien proprette et bien gentille, une jeune couturière en petit bonnet d'opéra comique avec un air troussé, une humeur folâtre, pour partager avec elle sa mansarde et son amour. Il fredonnait déjà dans un grenier qu'on est bien à 20 ans, contrairement à tant d'autres qui trouvent qu'on serait mieux partout ailleurs, fût-ce à la cave. Alvarez, au contraire, maigrisait chaque jour. Son regard donnait terne, sa taille se courbait. Une mélancolie stupide et bienheureuse s'étendait sur toute sa personne et engourdissait le peu de facultés dont la nature l'avait doué. L'amour qu'il ressentait toujours pour Mademoiselle Aglaé, moins ardent et moins furieux que celui de Mendès, mais plus intime et plus profond, était tourné chez lui en une manie acharnée, où le pauvre diable se mourait. La figure pâle de cette femme maigre, à la longue chevelure, l'accompagnait partout et l'obsédait comme un fantôme. Et chaque jour, ce souvenir renaissant et toujours plus vivace que la veille, réveillait son désir à peine calmé et le fouillait à tour de bras. Il aurait épuisé l'éternité à tourner comme un cheval au manège autour de cette idée fixe et immobile. Il n'en parlait plus, mais dans le silence de son cœur, il se consumait solitairement. On le mit d'abord au lait d'ânesse, en lui recommandant l'air de la campagne et l'exercice. Tous les jeudis et tous les dimanches, Mendès et le père Renaud allaient se promener hors Paris, en pleine campagne, ou seulement sur les boulevards extérieurs, les jours qu'il se sentait plus faible. Dès qu'il y avait du soleil dans le jardin, il descendait de sa chambre et il venait s'asseoir le long de l'espalier dans un fauteuil qu'on apportait exprès pour lui. Il s'amusait à regarder les poissons rouges nager dans le bassin ou bien il allait à la chasse aux limaces avec un bâton pointu. Le mois d'août arrivait, on était à l'époque des concours et des examens. M. Renaud était surchargé de besogne. Henri, qui avait remis pour l'hiver sa première épreuve à l'école de droit, ne faisait plus rien du tout et attendait patiemment le moment de retourner s'ennuyer en province. Madame Renaud était si belle, si bonne, si amusante. La vie était si douce chez le père Renaud, en n'écoutant aucun de ses conseils et en couchant avec sa femme. Il allait souvent dîner avec Morel, qu'il mettait toujours au courant des petits événements et des grands bonheurs dont se composait sa vie. Après le dîner, ils allaient prendre des glaces au café, ou bien, quand Morel avait le temps, ils entraient ensemble dans quelques théâtres, soit au Français, chez Debureau ou aux Variétés, mais jamais ailleurs, Morel détestant la musique. Un jour qu'ils avaient dîné aux Champs-Élysées, ils entrèrent au cirque pour se récréer un peu à considérer des jarrets souples, des chevaux qui sautent les barrières et les larges cuisses de femmes qui les montent. Marie était tellement occupée à parler des balourdises du père Renaud, de sa sotte figure de mari, de son adorable femme et des tours délicieux qu'elle lui jouait, que son compagnon perdit bien la moitié du spectacle, obligé à toute minute de détourner la tête pour lui répondre, et quoique placé au premier rang, à peine si à force de binocle, il pouvait voir en entier, lorsqu'elle passait devant lui, les cuillères souriantes qui, debout sur la pointe du pied et l'autre en l'air, les bras étendus en rond, tournaient emportés le long des galeries, tandis que le fouet claquait et que le sable volait, et qui repassait de suite devant lui, altière, la tête haute, le poing sur la hanche, les cheveux soulevés de la figure par le vent rapide de la course, qui faisait claquer sa robe de gaze comme un drapeau. Quand tout ce tapage fut fini, Henri en fut fort aise, car il empêchait Morel de l'entendre et le dérangeait lui-même de ses propres idées. « Non, lui disait-il en revenant, non, vous ne savez pas ce que c'est que d'être aimé par une femme qu'on aime. Ah, quand vous aurez passé par là, vous serez alors ce qu'on entend par le mot bonheur. Je ne vous parle pas des voluptés matérielles, cela ne sont rien. Mais c'est cette intimité complète qui vous unit plus étroitement encore. C'est cette ardente sympathie qui vous remplit le cœur et vous grandit, si bien qu'on n'a plus ni haine ni désir. » « Oh, il est vrai que j'ai jamais connu ce club-là, » dit Morel. « Quand vous approchez seulement de la femme que vous aimez, » reprenait Henri, « il y a en vous une joie qui s'éveille et comme une chanson intérieure qui part tout à coup. Moi, quand je l'entends marcher, oh, je ne peux pas vous dire. Tenez, l'autre jour, elle m'a donné un œillet. « Ah, adieu, » dit Morel, « nous voici au pont de la Concorde, adieu !» Et il lui serra la main, hésitant à le quitter. « Adieu, heureux homme !»«
Vous m'appelez heureux ?»«
Oui, » reprit l'homme mûr au jeune homme. « Oh, tenez, je vous envie, je voudrais être à votre place. »« Adieu, » ajouta-t-il tristement, « adieu !» et les deux amis se séparèrent. La lune était dans son plein et brillait sur la rivière. Elle était si belle ce soir-là qu'Henri s'arrêta à la regarder. Une large goutte d'argent, comme tombée du haut du ciel, s'élargissait sur l'eau. Des perles d'or, tassées et roulant les unes sur les autres, scintillaient dans le grand rayon de la lune, qui semblait descendre jusqu'au fond du fleuve et s'agiter dans ses ondes, ainsi qu'un serpent lumineux. L'ombre du pont, avec ses arches monstrueuses, se projetait en avant et tremblait sur le bord. Tout le reste était plongé dans cette vapeur bleuâtre et laiteuse des nuits d'été qui donne à la nature la teinte des rêves. Mais au bout de 5 minutes, il se remit à marcher, pensant à Madame Renaud qui l'attendait. Il pensait aussi avec joie à l'envie que Morel lui portait pour son bonheur. Il respirait à son aise. La nuit était chaude, il n'y avait personne dans les rues. Les pavés brillaient sous la lune. L'air était suave comme dans un parc. Déjà, il voyait sa maison, le long mur blanc du jardin, la masse noire des arbres qui tranchait dessus. Quelque chose de blanc parut au premier étage, derrière la sombre verdure des arbres, dans le brouillard argenté de la nuit. Il s'arrêta. La forme restait à sa place. Il s'avança, il la vit plus nettement entre le feuillage clair d'un acacia. Une petite toux légère s'entendit tout à coup. Elle l'avait reconnue à son pas. « Hum, hum » fit-elle. « Hum, hum » répondit Henri.